Je ne sais pas combien de chrétiens il y a dans le monde, des millions et des millions, sans doute, mais je suis quasiment sûr à 100% qu'il n'existe pas un seul chrétien qui dirait que son chapitre préféré de la Bible, c'est le chapitre devant nous ce matin. Le psaume 23, oui. Ésaïe 53, oui. Jean 14, Romains 8, oui, beaucoup de chrétiens choisiraient ces chapitres-là, mais Genèse 10, pas sûr. Nous nous tournons rarement à ce chapitre pour trouver de l'encouragement, pour trouver du réconfort dans les moments difficiles. Et je dois avouer que au début de cette série dans Genèse, je ne disais pas: ah, j'ai hâte de prêcher Genèse 10, c'est un passage que j'ai toujours voulu prêcher, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Non, si nous sommes honnêtes, nous disons que ces chapitres comme celui-ci, nous les parcourons le plus vite possible. Nous lisons peut-être même pas tous les noms dedans. Mais nous devons faire attention. Parce que nous croyons, avec l'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute l'Écriture, y compris Genèse chapitre 10. Et pour ceux qui prennent le temps de lire et de comprendre ce passage, de creuser dedans, les récompenses sont nombreuses. Les récompenses sont vraiment nombreuses. Et nous verrons, j'espère, que ce passage a beaucoup de choses à nous dire, à nous enseigner. Ce chapitre mérite bien une étude et une réflexion approfondie. Et en étudiant ce passage ce matin, nous disons avec le psalmiste: ouvre nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de ta loi. Et au début de mon sermon, je veux faire quelques remarques sur le style, la structure, et puis trouver des leçons principales dedans. D'abord, si vous regardez bien le verset 1, nous reconnaissons cette phrase qui se trouve au verset 1: voici la postérité de. Voici la postérité des fils de Noé. Cette petite phrase, voici la postérité, se trouve à plusieurs reprises dans le livre de Genèse. Chapitre 5, nous lisons: voici la postérité d'Adam. Chapitre 6, voici la postérité de Noé. Chapitre 10, voici la postérité des fils de Noé. Et Moïse, qui est l'auteur de Genèse, dirigé par le Saint-Esprit, il veut nous aider à voir que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire de l'humanité. Il fixe nos yeux par les petites phrases comme ça. Il nous montre, voilà, Dieu est en train de changer un petit peu, de changer de direction, changer de sens. Il veut fixer nos yeux sur ce que Dieu est en train d'accomplir dans son plan de rédemption. Vous vous rappelez, Dieu a promis de sauver l'humanité, de racheter l'humanité. Nous avons vu ça en Genèse 3:15. Il a promis d'envoyer un descendant de la femme pour écraser la tête de Satan. Il a dit: celle-ci t'écrasera ta tête. Il a dit à Satan. Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu nous prépare pour la venue du Messie. Et chaque fois que nous lisons cette phrase, voici la postérité de, voici les générations de, c'est comme si Dieu est en train de nous fixer nos yeux sur quelqu'un de nouveau. Vous suivez la ligne du Messie, voilà où il faut regarder. Dieu est en train de nous dire: je suis en train d'accomplir mon plan de rédemption pour l'humanité. Et nous devons nous poser la question quand nous lisons cette phrase: qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Qu'est-ce que nous devons voir dans ce chapitre? Deuxième chose à noter et à dire, c'est que nous n'avons pas ici une liste complète de toute l'humanité. Il ne faut pas penser, ça c'est toutes les nations, tous les peuples. Ce n'est pas le cas. Moïse ne nous donne pas tous les noms de tous les descendants. Ce n'est pas une liste exhaustive. Si vous voulez bien compter les noms, vous verrez qu'il y en a 70. Et un auteur a dit, c'est important ce 70, un auteur a dit: c'est un nombre rond qui correspond à une sélection soigneuse de peuples parmi une liste plus longue. Il y a des noms d'individus, les noms des peuples, des villes et des pays. Et nous reviendrons à ce numéro 70 tout à l'heure. Donc ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les nations, de tous les peuples sur la terre. Ensuite, un mot sur la structure de ce passage. Et ça, c'est intéressant à noter aussi. Moïse commence avec les descendants de Japhet. C'est eux qui sont partis le plus loin. Et si vous avez bien remarqué, vous avez vu que Moïse ne donne pas le nom de leur pays. Il parle simplement des nations ou des îles, les endroits que le peuple de Dieu n'aurait pas connus. Donc ce n'est pas la peine forcément de donner les noms de là où ils sont allés. La Bible parle ailleurs, nous avons déjà chanté ça ce matin, des îles et des pays lointains, des nations. Nous avons chanté au psaume 97, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Et nous avons lu dans Ésaïe 42 qu'on rende gloire à l'Éternel, que dans les îles on publie ses louanges, que dans les pays lointains, là où sont partis les descendants de Japhet. Après les descendants de Japhet, Moïse parle des descendants de Cham. Et là, Moïse parle des nations qui entouraient le peuple de Dieu à l'époque. Et le peuple de Dieu, même si nous ne reconnaissons pas tous ces noms, mais le peuple de Dieu aurait reconnu la plupart de ces noms. Et certains de ces noms jouent un rôle important dans l'histoire du peuple de Dieu. Verset 6, vous voyez le nom Mitzraïm, ça c'est l'Égypte. Verset 10, vous voyez le nom Babel. Et nous allons voir l'importance de Babel dans le chapitre 11. Vous voyez verset 11, Ninive, là où est allé Jonas. Les Philistines, Sodome et Gomorre, déjà les endroits que nous connaissons. Et puis, au verset 21, il y a la famille de Sem. Ce que fait Moïse, je ne sais pas, quand j'étais enfant, je le fais encore. Il y a un repas, il y a plusieurs choses différentes sur l'assiette. J'ai tendance à garder ce que j'aime le mieux, le plus important pour la fin. Donc si je dois manger des choses que je n'aime pas, je fais ça au début. Et à la fin, il me reste la meilleure, la plus importante. C'est ce que Moïse fait ici, dans un sens. Il commence avec Japhet, Cham, et puis Sem. Il garde le plus important pour la fin. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu avait choisi de bénir les descendants de Sem, les Sémites. Nous avons vu que le Messie viendrait de la ligne de Sem. Et si vous regardez le verset 21, Moïse attire notre attention à cette famille. Il ne dit pas simplement les fils de Sem furent. Il a dit ça pour Japhet et pour Cham. Mais il veut attirer notre attention sur cette famille. Donc il dit, ils naquirent aussi des fils à Sem, père de tous les fils de Héber. Donc il y a une façon différente de parler de Sem. Et là encore, dans ce verset, il attire notre attention sur ce Héber, pour nous dire que sa famille sera importante. Héber viendra plusieurs générations après Sem, mais Moïse parle de lui ici, au début, pour nous avertir de son attention, son importance. Et pourquoi Héber est-il important? C'est parce que Héber est le père de tous les Hébreux. Les Hébreux. Vous voyez? Et là, il faut creuser un petit peu, mais ça vaut la peine. Il est père du peuple de Dieu, de la ligne choisie par Dieu pour son Messie. Donc c'est pour ça que là, au verset 21, Moïse attire notre attention sur ce monsieur. Donc voilà quelques remarques sur le style du texte, sur la structure. Ce n'est pas par hasard que le passage est écrit comme ça. Dieu sait exactement ce qu'il fait en dirigeant son serviteur Moïse par l'Esprit à écrire comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à voir dans ce chapitre? Est-ce qu'il y a des vérités ou des leçons à voir? Oui, je pense qu'il y a des leçons très importantes à voir dans ce passage. Et je veux voir avec vous un avertissement et deux encouragements. Un avertissement et deux encouragements. Regardez bien le premier et le dernier verset de ce chapitre, verset 1 et le verset 32. Il y a trois mots qui sont répétés au verset 30, qui sont donnés au verset 1, qui sont répétés au verset 32, et c'est les mots après le déluge. Après le déluge. L'auteur souligne la place du déluge dans l'histoire de l'humanité. C'est le grand événement qui a tout changé, qui a marqué l'esprit des hommes. Il y a souvent des événements comme ça dans l'histoire. On pourrait parler des deux guerres. On dit qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? Les guerres ont tout changé. Aux États-Unis, on parle de comment la vie a changé. J'étais en train de dire, on parle souvent aux États-Unis de comment les événements du 11 septembre ont changé, ont marqué l'esprit des gens, ont changé la vie pour toujours, on pourrait dire. Alors, est-ce que le déluge a fait ça? Est-ce que le déluge a marqué l'esprit de l'homme comme ça? On pourrait imaginer que pendant des années, pendant des générations après le déluge, on aurait beaucoup parlé du jugement de Dieu contre le péché, de la dévastation, de comment Dieu avait versé sa colère, son jugement contre le péché sur toute la terre. Cet événement aurait été gravé dans la psyché collective de l'humanité. On aurait pensé ça, n'est-ce pas? Le souvenir du déluge aurait dû empêcher l'humanité de s'éloigner encore de Dieu, de se rebeller de nouveau contre lui. Je me rappelle mon prof d'allemand, j'adorais mon prof d'allemand, mais c'était un homme sévère. Et une fois, il nous a donné du vocabulaire à apprendre et on a tellement mal appris le vocabulaire, il nous a fait un contrôle, personne n'a eu toutes les bonnes réponses. Il a demandé à toute la classe d'écrire la liste de vocabulaire 200 fois. Tellement il était en colère. Je peux vous garantir que personne n'a osé ne pas apprendre le vocabulaire la prochaine fois. On était tellement marqué par la punition, par le jugement du prof, qu'on n'a pas osé l'offenser une deuxième fois. Et je m'en souviens encore, 30 ans plus tard. C'était comme ça avec le déluge? Non, pas du tout. On a vite oublié Dieu et son jugement. On a vite oublié combien le péché est grave. C'est vrai que dans certaines des nations, on a continué à servir Dieu, mais la plupart des descendants des fils de Noé se sont très vite tournés le dos à Dieu. Prenons un exemple. Que nous voyons au verset 6 à 9. Cush est un des fils de Cham, et un des fils de Cush, c'est Nimrod. Donc le petit-fils de Cham, l'arrière-petit-fils de Noé, l'arrière-petit-fils de Noé, le géant de la foi, c'est Nimrod. Et est-ce qu'il a, lui, il a suivi les traces de son arrière-grand-père? Avait-il la même foi que son arrière-grand-père? Le nom Nimrod veut dire nous allons nous rebeller. Nous allons nous rebeller. Et ça n'encourage pas à penser que c'était un homme de foi. Que dit la parole à son sujet? Verset 9. Vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod était un grand chef puissant, redouté, un homme de guerre. Plusieurs commentateurs aiment penser que c'était un homme violent et cruel. Il était roi de Babel, la ville qui s'est rebellée contre Dieu. Donc en quelques générations, en trois générations, la crainte de Dieu disparaît. Les descendants de Noé oublient le déluge et le Dieu qui l'a envoyé. Et ce danger existe pour nous aussi. Aujourd'hui, nous sommes bien conscients de Dieu, de sa personne, de sa sainteté, de ce qu'il demande de nous. Peut-être que nous sommes peinés par notre péché, mais il est bien possible d'oublier ces choses. Il est bien possible de s'éloigner de Dieu, de sa parole, de son peuple. Et en très peu de temps, Dieu n'occupe plus de place dans nos pensées. J'ai vu ça chez beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai vu ça dans ma famille à moi. Le danger d'oublier Dieu, d'oublier ce qu'il a fait. Souvent, il y a un drame dans la vie. Il y a une maladie ou un accident, le décès d'une proche, et on se tourne vers Dieu. Il y a quelque chose comme le déluge, et on se tourne vers Dieu. On cherche des réponses, on cherche du réconfort auprès de Dieu. Peut-être qu'on commence à lire la Bible, on commence à prier. Mais au fur et à mesure, la vie normale reprend comme avant. Le drame est oublié, la crise est oubliée, et les pensées de Dieu et de l'éternité disparaissent. J'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois. On peut s'éloigner de Dieu petit à petit, imperceptiblement. Et bientôt, on se trouve loin de lui. Loin de lui, indifférent à sa voix. Il est facile de louper un dimanche au culte. Ça arrive à tout le monde. Mais petit à petit, ça devient une habitude. Et petit à petit, on s'éloigne du peuple de Dieu, de l'Église, on s'éloigne de Dieu. Et on finit avec un cœur endurci envers Dieu, envers sa parole. Et le danger est là pour nous tous. Et vous devez veiller, veiller sur vous-même. Nous devons veiller les uns sur les autres. Des gens, et pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, on ne les voit pas. Est-ce que quelqu'un va appeler? Est-ce que quelqu'un va passer voir? J'espère. J'espère pour dire, là tu nous manques le dimanche. Qu'on ne laisse pas les gens s'éloigner de Dieu. Le danger d'oublier Dieu, un avertissement. Mais il y a aussi deux encouragements que je veux voir dans ce passage. D'abord, Dieu est à l'œuvre malgré ce que nous voyons. Dieu est à l'œuvre. Ce que nous avons dans ce chapitre, c'est un document, une espèce de registre très très détaillé, beaucoup plus détaillé que tous les autres documents anciens. C'est un document bien organisé et bien précis. Et ce document confirme pour nous que Dieu sait exactement ce qui se passe dans le monde qu'il a créé. Il sait qui habite où. Dans le monde avec autant de monde, on peut se sentir seul, on peut se sentir sans aucune importance. Mais ce chapitre dit que Dieu connaît les nations, il connaît les tribus, il connaît les familles, il connaît les individus. 7 milliards de personnes dans le monde. Et Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Le Dieu qui connaissait le cœur de Nimrod, il connaît votre cœur. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et Dieu sait exactement ce qui se passe dans votre vie. Il connaît toutes les circonstances de votre vie. Il connaît vos soucis, les choses qui vous inquiètent, les choses qui vous empêchent de dormir. Il sait ce qui vous arrivera demain. Dieu connaît tout. Mais ce qui nous réconforte et encourage, ce n'est pas simplement le fait de savoir que Dieu sait tout, que Dieu sait ce qui se passe. Parce que Dieu peut tout savoir, mais il peut être impuissant, il peut être incapable d'agir, mais ce n'est pas le cas. Ce qui nous encourage, c'est le fait que Dieu, il sait tout, il connaît toutes ses créatures et il est en train d'accomplir sa volonté et son dessein éternel. Il n'est pas impuissant. Il intervient, il agit, il dirige toutes choses. Nous voyons que Dieu est en train d'accomplir sa volonté dans ce passage. Malgré la rébellion des gens comme Nimrod, malgré les nations où Dieu n'est pas reconnu, Dieu n'est pas adoré, il accomplit son plan. Ses projets ne sont pas contrecarrés par le mal ou par les méchants. On peut lire ces versets, on peut dire, il n'y a rien de spectaculaire dans ces versets. Mais nous verrons plus tard des noms importants, notamment Hébert, dont je viens de parler, et Peleg. Nous verrons au chapitre 11 que ces hommes-là sont des ancêtres d'un certain Abraham. Et Abraham, nous le savons, c'est l'ancêtre d'un certain Jésus-Christ. Dieu est en train d'accomplir sa volonté. Nous ne voyons pas tout. Nous ne comprenons pas tout, mais Dieu sait exactement ce qui se passe. Il accomplit son plan de rédemption. C'est vrai qu'il reste beaucoup d'années à venir avant l'arrivée de Jésus-Christ, avant l'avenue de Jésus-Christ. Et l'histoire, même de l'Ancien Testament, tourne autour de cette personne de Jésus-Christ. Et c'est toujours le cas. C'est souvent caché de nos yeux, mais Dieu est à l'œuvre. Et nous regardons le monde autour de nous. Et il ressemble un peu au monde du chapitre 10. Des pays lointains, nous venons d'en parler avec les enfants, des pays lointains qui ne connaissent pas le Seigneur. Des pays où les méchants, les Nimrods, semblent dominer. Il y a de nombreux Nimrods de nos jours. Et on pourrait demander, où est Dieu? Que fait Dieu? Mais Dieu est encore à l'œuvre, même si nous ne le voyons pas. Dieu agit pour sa gloire ultime et pour le bien ultime de son peuple. Il agit pour avancer son royaume sur terre, dans les nations, dans le cœur des individus. Et nous ne voyons pas ce qui se passe dans le cœur. Nous ne sommes pas les victimes du hasard, un monde dirigé par le hasard. Nous ne vivons pas dans un monde qui n'a aucun sens. Dieu est à l'œuvre pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. Il agit en toutes choses pour que le règne de Jésus-Christ soit reconnu. Et ça doit nous encourager là dans un monde où le chaos semble régner. Dieu accomplit son plan. L'histoire avance vers un but, vers une fin. Et c'est le retour glorieux de Jésus-Christ. Pour juger, pour régner, pour inaugurer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voici ce que Dieu est en train d'accomplir. Dieu agit malgré tout. Deuxième chose qui nous encourage, c'est ce que j'ai appelé un cœur pour le monde. Il y a encore un énorme encouragement pour les disciples de Jésus-Christ dans ce chapitre. Ce chapitre décrit comment les nations ont été fondées. C'était quoi le dernier commandement que Jésus a donné à ses disciples avant de partir? Qu'est-ce qu'il a dit? Quel mandat a-t-il donné à son Église? Matthieu 19, Matthieu 28, pardon, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit dans Acte 1, verset 8, Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le vendredi soir, il y a des réunions à l'église, il y a une réunion de l'église de la Boissière organisée par une association qui s'appelle Un cœur pour le monde. Et le but de ces réunions, c'est d'annoncer l'évangile à des étudiants qui viennent à Nantes de partout dans le monde. Les gens qui sont impliqués dedans, ils ont un cœur pour le monde. Jésus a un cœur pour le monde. Dieu le Père a un cœur pour le monde. Et dans ce chapitre, nous voyons les nations différentes, les langues différentes, les familles différentes, les pays différents, et Dieu les connaît. Dieu a un cœur pour ses nations. Jésus envoie ses disciples. Il envoie son Église pour faire de ces nations des disciples. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 70 noms dans ce chapitre, des nations, des peuples, des individus. Peut-être que c'est une coïncidence, mais je ne crois pas, et les commentateurs, la plupart, sont d'accord. Mais dans Luc 10, Jésus envoie ses disciples pour annoncer l'Évangile. Il en envoie combien? 70. Je pense que ce n'est pas par hasard. Je pense que là, Jésus est en train de dire, je vous envoie dans le monde. Je veux que mon peuple aille dans le monde pour annoncer l'Évangile. Jésus envoie ses disciples. Il envoie son Église vers les descendants de Japhet, de Cham et de Sem. Il les envoie vers les îles et les pays lointains. Il les envoie dans les pays décrits dans ce chapitre. Et mes amis, il reste du travail à faire. Maintenant, c'est l'Église du 21e siècle qui est envoyée dans toutes les nations de ce monde. Nous sommes envoyés. Vous êtes envoyés. Jésus nous demande de faire des disciples de toutes les nations. C'est vrai qu'il y en a qui disent, bah, c'est plus facile maintenant, on n'a plus besoin de partir parce que les nations sont venues chez nous. Et dans un sens, c'est vrai. On peut trouver, j'imagine, presque toutes les nations de la terre entière ici en France. Mais il reste quand même pas mal de monde chez eux. Et on reste. Mais que faisons-nous pour atteindre ces gens qui sont venus en France, à Nantes? Que faisons-nous pour les atteindre avec l'Évangile? Que faites-vous pour les atteindre? Jésus vous envoie. Obéissez-vous au dernier commandement de Jésus? Quelqu'un a dit concernant le mandat que Jésus a donné, d'aller partout dans le monde pour annoncer l'Évangile, soit nous partons dans le monde, soit nous envoyons et nous soutenons ceux qui sont envoyés, soit nous désobéissons. Lequel de ces trois est vrai de nous? Soit nous partons, parce que Jésus nous envoie, soit nous envoyons et nous soutenons, soit nous désobéissons. Avez-vous un cœur pour le monde, pour ces peuples païens, quand vous voyez les masses au centre-ville de Nantes? Avez-vous un cœur pour ces gens-là? Ou est-ce que vous pensez, quelle inconvénience? On estime que 29% de la population du monde n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. 29%, ça veut dire 2 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Aucune église, aucune occasion d'entendre l'Évangile, pas de chrétiens dans leur quartier. Il y a des centaines de langues qui n'ont pas un seul verset de la Bible. Des centaines de langues. 29% de la population qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Et 1% de l'argent donné pour soutenir des missionnaires va à ces missionnaires-là, à ces gens-là. C'est incroyable. C'est incroyable. 1% de l'argent dépensé sur les missionnaires va vers les 29%, les 2 milliards de personnes. J'ai déjà dit, aux États-Unis, on dépense plus d'argent pour acheter des déguisements de Halloween pour les animaux que l'Église de Jésus-Christ envoie vers ces 2 milliards de personnes pour acheter des Bibles, pour financer des églises. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit d'aller, partir. Est-ce que nous lui obéissons? Avons-nous un cœur pour les nations de Genèse 10? Et pourtant, la Bible est remplie de promesses pour ceux qui se consacrent à l'annonce de l'Évangile dans le monde. Énormément de promesses. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Toutes les nations. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et les villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Les habitants des îles vont chanter des louanges à Dieu. Apocalypse 15, verset 4 dit, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Le Pérou viendra, l'Argentine viendra, le Cameroun viendra, le Brésil viendra, les États-Unis viendront. La France viendra, l'Irlande viendra, le Nigeria viendra, l'Inde viendra. Toutes les nations viendront. Quelle promesse, quelle promesse. Les habitants des îles se prosterneront devant le trône de Dieu. Ils chanteront ses louanges. Qu'est-ce qu'on a lu dans Apocalypse 5? Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Quel encouragement pour l'Église de Jésus-Christ de partir avec l'Évangile. Quelle espérance sûre et certaine. Mais avec toutes ces promesses, tous ces encouragements, pourquoi sommes-nous si lents à partir, à aller, à annoncer? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous retient? On lit Genèse 10 et on dit, quel drôle de chapitre. On est un peu perdu dans tous les noms, ces noms bizarres qu'on a du mal à prononcer. Mais comprenez ceci, tous ces noms bizarres que nous avons lus, tous ces pays, toutes ces villes, ils seront représentés devant le trône de Jésus-Christ. Nous allons rencontrer les fils de ces hommes-là. Nous allons les rencontrer au ciel. Ils seront tous là, rachetés par le sang de Jésus. Quel grand Seigneur et grand Sauveur nous avons. Il a donné sa vie pour ses peuples. Quand vous lisez Genèse 10, Jésus a donné sa vie pour ses peuples. Et il nous dit d'aller annoncer l'Évangile partout dans le monde. Réveillons-nous et obéissons au commandement de notre chef et Seigneur Jésus-Christ. Amen.